Jésus et la prière. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur déclara « Quand vous priez, dites « Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu seul. Que ton règne vienne, donne-nous chaque jour le pain nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi trois pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi-même sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il ne se lèvera pas pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils ? Alors que celui-ci lui demande un poisson, ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
De commencer, prions avec moi. Oui, notre Seigneur, notre Dieu, merci, Seigneur Jésus, parce que tu as enseigné à tes disciples comment prier. Seigneur, nous avons besoin aussi de savoir comment vraiment prier. Seigneur, je te prie que tu nous aides ce matin d'apprendre de ta parole comment mieux prier pour être vraiment en relation avec toi à tout moment. Seigneur, merci de ce privilège que tu nous donnes d'être ici. Et je te prie, Seigneur, que ton nom soit glorifié parmi nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses dans la vie, nous voudrions souvent connaître le secret de son succès. Nous nous demandons comment il a réussi et quelle est la raison de son succès. Prenons un exemple, le mien. Donc, en tant que pasteur, lorsque je rencontre un collègue qui a accompli une grande tâche, quelqu'un qui a peut-être... implanter une église dans un endroit difficile, quelqu'un qui a formé beaucoup de jeunes pasteurs, des missionnaires. Donc, je voudrais alors connaître sa stratégie, comment il a accompli tout cela. Il en va de même dans Luc chapitre 11. Jésus est revenu d'un temps de prière et il montre une énergie renouvelée ainsi qu'une grande force. Ses disciples, se rendant compte de l'importance de la prière dans la vie de Jésus, voulurent connaître son grand secret. L'un de ses disciples exprima ce qu'ils pensaient tous. « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Quel est ton secret, Jésus? Comment connais-tu cette relation si profonde, si intime, si précieuse avec le Père? » Quelle est ta formule de succès? Je peux m'identifier avec ses disciples. Je ne suis pas toujours satisfait de ma vie de prière. Parfois, je pense être trop occupé pour pouvoir prier. Même, je peux oublier de prier. En d'autres occasions, je me sens trop fatigué pour prier. Et oui, souvent, Parfois, ma prière me semble faible et inefficace. Un pasteur ne doit pas peut-être avouer sa faiblesse dans la prière. Mais je vous dois la vérité. Il est vrai que je ne suis pas toujours satisfait de ma vie de prière. Pourtant, l'audace de ce disciple de Jésus m'encourage. En regardant la vie de prière de son maître, son désir de bien prier s'est grandement accru. Et il lui a demandé alors, « Seigneur, enseigne-nous aussi à prier. » Je ne sais pas si je suis la seule personne ici qui n'est pas entièrement satisfait de sa vie de prière, mais j'en doute. Il nous arrive également de vouloir implorer Jésus en lui disant, « Jésus, enseigne-nous à prier. » Et lorsque nous regardons la réponse de Jésus dans ce passage, nous sommes étonnés. Ses disciples lui ont demandé comment mieux prier. Et Jésus leur donne une toute petite prière que nous avons tous mémorisée, mais qui ne semble pas vraiment changer notre état de faiblesse. Ensuite, Jésus ne nous donne pas des grands principes de prière, mais il raconte une histoire aux disciples. Et pourtant, regardons le texte, nous voudrions voir que Jésus voulait commencer son enseignement en changeant les idées fausses de ses disciples. Jésus veut changer notre idée, notre concept sur la prière. La réponse de Jésus à ses disciples commença par cette prière modèle que nous connaissons tous comme le Notre Père. Cette courte prière nous étonne parce que les disciples voulaient prier d'une meilleure façon. Mais Jésus ne leur donne pas des grands principes ni de formules pour mieux prier. L'on demande au Seigneur comment prier et il nous traite comme des enfants. C'est aux enfants que l'on enseigne à mémoriser les courtes prières, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, mon père m'a appris à remercier Dieu pour la nourriture quand j'avais peut-être 3 ans. Après avoir commencé de parler, de dire simplement merci Seigneur pour cette nourriture. Et il nous a donné l'occasion avant chaque repas de prier et de remercier le Seigneur. À la fin, bien sûr, cela est devenu une habitude. Oui, c'est aux enfants qu'on apprend à mémoriser les prières. Les disciples voulaient mieux connaître le succès que Jésus obtenait du Père dans la prière. Mais lorsqu'ils lui demandaient, « Seigneur, enseigne-nous à prier », il leur donna cette courte prière qu'on peut mémoriser, réciter ensuite dans une vingtaine de secondes. Je peux imaginer la consternation de ses disciples. Peut-être pensaient-ils, « Ah, mais Jésus, nous ne sommes pas d'enfants. C'est trop facile. Nous voulons connaître la puissance de la prière. Nous voudrions connaître l'extase de la prière, les miracles comme exaucement de nos prières. Nous voudrions persévérer dans la prière. Nous voudrions peut-être prier toute la nuit sans nous fatiguer ni nous relâcher. C'est cela que nous t'avons demandé, Seigneur. Et tu nous donnes une prière pour les enfants? » Pourquoi Jésus leur a-t-il répondu ainsi? Pourquoi les traite-t-il comme des petits-enfants? Non, Jésus ne les traite pas comme des enfants. Jésus veut plutôt changer l'image qu'ils se font de la prière. Nous nous comportons souvent comme ses disciples. Nous pensons que la prière est quelque chose que l'on fait, une activité religieuse. Et nous voulons aussi connaître les principes, la persévérance, la puissance, les miracles, les grands exaucements de nos prières. Mais Jésus nous montre d'abord que l'essentiel de la prière ne réside dans aucune de ces choses, mais que la prière est avant tout une relation. Jésus parle de la prière comme une relation intime entre un père et son enfant. Oui, Jésus ne nous donne ni commandement ni règle pour prier quand on a posé cette question. Non, il nous montre une relation toute particulière et intime avec Dieu. Laissez-moi vous donner une illustration. Pour bien comprendre le Notre Père, il me semble, nous pouvons le comparer aux gammes de piano qu'un professeur donne à faire un débutant. Si l'on veut étudier le piano, on doit apprendre d'abord les notes de musique. La gamme comprend sept notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. N'est-ce pas? Voilà. On commence toujours avec les gammes. Lorsque l'étudiant progresse, il ne joue plus des gammes. Mais il est toujours vrai que toute sa capacité de jeu, toute sa créativité resteront basées sur ces gammes. Il en va de même avec le Notre Père. Cette prière est la gamme nécessaire dans notre relation avec Dieu. C'est le modèle d'une relation intime avec Dieu. Il est essentiel que le chrétien qui veut savoir mieux prier commence avec le cœur de Dieu. La prière ne commence jamais avec ce que nous voulons, ne commence jamais avec ce que nous désirons, mais la vraie prière commence toujours avec la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici le commencement de la vraie prière. Celle-ci est toujours enracinée dans le cœur et la volonté du Père. Et quand nous apprenons à prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, nous pouvons aussi prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses et ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà les gammes de la prière. Jésus connaissait cette relation intime avec le Père et il voulait que ses disciples se rendent compte aussi que la vraie prière est une relation. Bien sûr, il nous a donné cette prière modèle. Cependant, l'essentiel ne consiste jamais à mémoriser ses paroles, mais plutôt à vivre cette relation d'amitié. Puisque la prière est une relation, nous savons tous que la relation dépasse largement la portée de nos paroles. En tant que mari, ce que je pense, ce que je fais, mes attitudes, mes actes, ont tous de l'importance au sein de ma relation de couple. Il en va de même avec Dieu. La prière est tout d'abord relation. Et donc, après avoir donné à ses disciples les gammes de la prière, Jésus raconte aussi une parabole. Et dans celle-ci, il touche aux sentiments et aux attitudes au sein de la prière, car Jésus veut aussi changer notre idée de Dieu. Jésus raconte une parabole au sujet d'une situation habituelle dans la Palestine du premier siècle. Un homme et sa famille dorment tranquillement la nuit lorsqu'un voisin vient frapper à la porte. Dans le Moyen-Orient du premier siècle, les gens voyageaient souvent le soir pour éviter la chaleur de la journée. Et les hostelleries n'étaient pas nombreuses, alors les voyageurs s'arrêtaient chez l'une de leurs connaissances pour y passer la nuit. Lorsque quelqu'un arrivait, même tard dans la nuit, la loi de l'hospitalité exigeait que l'on prépare un repas. Même aujourd'hui, les lois de l'hospitalité sont très respectées au Moyen-Orient. Lorsque nous avons rendu visite à notre fils, notre belle-fille qui habite en Jordanie la Noël passée, nous étions très touchés par l'accueil des personnes à notre égard. Même les gens pauvres insistaient pour nous accueillir. Et c'était la même chose quand nous habitions en Afrique, en Guinée. Les Africains sont également très hospitaliers. Les gens qui n'avaient presque rien partageaient tout ce qu'ils possédaient avec leurs visiteurs. Je reviens à la parabole de Jésus. Un voyageur arrive de manière inattendue chez son ami. Et quand celui-ci commence à préparer un repas, il constate qu'il n'a rien à lui offrir. Mais il est impensable de laisser ainsi le visiteur se coucher sans lui donner à manger. Donc l'homme quitte silencieusement sa maison pour aller demander de l'aide à son voisin. Mais la réponse de ce dernier, regardez maintenant dans le texte ce que nous trouvons au verset 7, ne semble pas très encourageante. Il nous faut bien comprendre la situation dans une maison palestinienne du 1er siècle. Si vous connaissez un peu les villages africains, la maison en Palestine au 1er siècle ressemblait plus à une hutte africaine, c'est-à-dire une seule pièce avec une seule porte. Donc pendant la journée, la porte reste toujours ouverte, mais la nuit, les enfants, les animaux parfois aussi rentrent. Le papa allume un petit feu s'il il fait froid. Au milieu de la maison, les enfants, les animaux se couchent autour du feu et l'homme et sa femme un peu plus loin. Lorsqu'on ferme la porte et que l'on éteint les bougies, c'est le noir absolu. Pour ma part, je ressens grande compassion pour cet homme. Je pense que le coucher des enfants est aussi difficile dans une culture que dans toute autre. Je me souviens du temps où mes propres enfants étaient petits. Après leur avoir lu plusieurs livres, donné 3 verres d'eau, superviser leurs 3 allers-retours aux toilettes, répondu à 1000 questions. Alors, quand les enfants sont enfin calmes, on ne veut plus du tout être dérangé. Et pourtant, ce voisin est persistant. Il continue à frapper à la porte. Je pense que les enfants se réveillent en même temps que les animaux. Ils commencent à pleurer. Les animaux se heurtent contre les meubles dans le noir. Alors, au comble de l'exaspération, l'homme se lève pour donner du pain à son voisin. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner dans cette parabole? C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Il me semble que Jésus voulait montrer au travers de cette parabole l'idée que ses disciples se faisaient de la prière. Car cette parabole illustre la prière d'urgence. Nous parlons souvent des prières de reconnaissance, de louange, d'adoration, d'intercession. Mais il nous arrive le plus souvent de prier davantage lorsque nous traversons des moments de crise. Et cette constatation nous remplit souvent de honte. Le problème, c'est que nous voyons parfois Dieu comme à l'image de ce voisin, indifférent et réticent. Cette parabole est très souvent enseignée comme une histoire positive de la prière. Mais l'on doit remarquer que Jésus a enseigné aussi bien par contraste que par similarité. Et plus loin dans le passage, Jésus établit un contraste entre le Père humain et le Père céleste, car il dit, « Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ?» Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Quelle image! Jésus montre que nous, les humains, bien que nous soyons pécheurs, nous aimons donner de bonnes choses à nos enfants. Si mon fils me demandait un œuf pour son petit déjeuner, je ne lui servirai jamais un scorpion sur son assiette, parce que j'aime mes enfants. Je désire tout ce qui est bien pour eux. Et Jésus continue. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses, ça c'est dans le texte de Matthieu, selon Matthieu, ou le Saint-Esprit, ici dans le texte de Luc, parce que le Saint-Esprit est le meilleur des choses que le Père donne à ceux qui le lui demandent. Si Jésus insiste sur le fait que le Père Céleste veut nous donner de bonnes choses, pourquoi aurait-il donné une image de Dieu semblable à celle d'un voisin réticent, irrité et hargneux? Non, mes frères et mes sœurs, ce voisin ne représente pas une bonne image de Dieu. Jésus enseigne aussi par contraste. Pourtant, ce voisin incarne une image courante que plusieurs personnes, même parfois nous les chrétiens, avaient de Dieu, ou que nous avons de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, le grand mensonge de Satan, c'est que Dieu est contre nous et non pour nous. Dans le jardin, le serpent a convaincu Ève que Dieu ne voulait pas qu'elle mange de l'arbre dans le jardin parce qu'il savait que le jour où elle en mangera, ses yeux s'ouvriront et qu'elle sera comme Dieu. Est-ce la vérité? Bien sûr que non. C'était un mensonge. Et en réalité, depuis ce jour, la stratégie de Satan n'a pas beaucoup changé. Le nom de Satan veut dire littéralement accusateur. Depuis le jardin d'Éden, Satan essaie d'accuser les hommes devant Dieu et d'accuser Dieu devant les hommes. Satan veut nous donner une image de Dieu comme ce voisin, celui qui est bougon et indifférent. Et si Satan peut nous convaincre que Dieu n'est pas vraiment pour nous, nous considérons alors la prière comme un marché. Nous essayerons de marchander avec Dieu afin de recevoir ce que nous voulons et nous penserons que Dieu ne veut pas vraiment nous aider. Il nous faudra donc le déranger en frappant à sa porte avec tant d'insistance pour que finalement il ouvre cette porte et nous apporte son aide. Mais non, Jésus veut changer aussi notre image de Dieu. Nous sommes des enfants qui pensons que Dieu est indifférent et nous devons le convaincre de nous aider. Nous croyons que nous devons l'importuner jusqu'à ce qu'il se lève pour nous répondre. Non, dit Jésus, vous ne comprenez pas. En effet, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Dieu n'est pas ce voisin mesquin et revêche. Il est notre Père. Un Père généreux et bienveillant. Il veut nous recevoir. Il veut nous accueillir. Il veut nous écouter. Si vous cherchez une image de Dieu, il ne faut pas la chercher ici, chez ce voisin. Non, il faut aller peut-être quelques chapitres plus loin. Dans le chapitre 15 de Luc, Jésus raconte la parabole que nous connaissons comme la parabole du fils prodigue. Ce jeune fils voulait que son père meure afin qu'il puisse recevoir son héritage, parce que cela, c'est vraiment le sens de son demande dans cette parabole dans Luc chapitre 15. Dans le Moyen-Orient, on ne partage jamais l'héritage avant la mort des parents. Mais ce jeune homme voulait son héritage. Le père le lui donna et son fils partit. Après longtemps, ce fils qui avait fait honte à son père par sa rébellion, par son insolence, décide de retourner chez lui parce qu'il avait faim, il a tout dépensé. Non plus comme un fils, mais comme un serviteur dans la maison de son père. Il se mit en route pour se rendre chez lui. Et comme il se trouvait encore loin de la maison, son père l'aperçut, Jésus a dit dans Luc chapitre 15, et fut pris de pitié pour lui. Et la Bible nous dit qu'il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrasa longuement. C'est de manière audace que Jésus décrit Dieu dans cette parabole. Non comme un père qui attend passivement que son enfant, rempli de honte, se glisse furtivement dans la maison, mais comme un homme qui se précipite à sa rencontre pour le serrer dans ses bras. Dès son départ, ce père avait l'habitude chaque jour de scruter la route. Ce jour-là, il ne fut pas certain de qui il s'agissait. Ce jeune qui arrive paraît maigre, ses vêtements sont sales et déchirés. Mais oui, c'est lui, c'est mon fils. Et le père se lève et court vers son enfant. Au Moyen-Orient, les hommes importants portaient souvent les djellabas et ne couraient jamais. Et certainement pas vers quelqu'un qui a méprisé la famille et le clan. Ce jeune homme avait fait honte à sa famille ainsi qu'au village entier. Dans cette société, si quelqu'un osait revenir au village après lui avoir fait honte, tout le village lui jetterait des insultes, même peut-être des cailloux. Cependant, ce père aime tellement son fils qu'il porte la honte sur lui-même. Le village se moque maintenant de ce vieux qui essaie de courir vers son fils. Le fils pensait revenir au village comme un serviteur. Il commence son discours. « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Mais le père l'interrompt. Portez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Pas une robe ordinaire, mais sans doute celle du père. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Pourquoi une bague et des sandales? Ce n'était pas une bague ordinaire, mais l'anneau sigillaire pouvant servir de sceau avec le cachet de la famille. C'est l'anneau du propriétaire de la maison. Et les sandales, car un serviteur ne porte pas des souliers. Mais le fils, oui, il n'est pas serviteur. Il est fils dans la maison de son père. Nous appelons souvent cette parabole celle du fils prodigue, mais ce n'était pas vraiment un nom juste, car ce n'est pas le fils, mais le père qui représente le caractère central de cette parabole. Le thème de cette histoire n'est pas l'infidélité du fils, mais l'amour et la grâce du Père. Le Père qui fait tout pour ses enfants égarés, même le fils aîné, qui n'a pas quitté la maison, mais qui n'est pas lui non plus en bonne relation avec le Père. Voilà l'image de Dieu que vous devez garder dans votre cœur. Mes frères et mes sœurs, je vous implore, ne croyez jamais dans le mensonge de Satan que Dieu est contre vous, que Dieu est réticent, que Dieu nous aime, ne vous aime plus, que Dieu est acquiâtre et hargneux. Non, au contraire. Si donc, vous qui êtes mauvais, c'est-à-dire simplement vous qui êtes des pécheurs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Oui, les disciples, étonnés par la relation entre Jésus et son Père, lui ont imploré, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus a commencé avec les gammes de prière, le Notre Père, en insistant sur le fait que l'essentiel n'est pas dans les paroles, mais dans la relation. Qu'il est un Père qui nous invite dans cette relation d'intimité avec le Père et son Fils. Ensuite, il a corrigé l'image que les disciples se faisaient de Dieu. Si notre image de Dieu est fausse, alors nous ne voulons plus nous approcher de lui. Ressentez-vous une honte quelconque devant Dieu? Pensez-vous parfois que vous êtes en train de le déranger, de l'importuner? Si oui, vous ne prierez alors que dans les cas d'urgence. Au contraire, Jésus veut nous montrer le visage d'un Père. Un Père d'amour. Un Père fidèle. Qui regarde chaque jour, qui scrute la route pour le retour de son enfant égaré. Jésus a tout fait pour nous montrer le Père. Voulez-vous le meilleur pour vos enfants? Je peux demander aux deux nouveaux pères là. Voulez-vous le meilleur pour vos enfants? Bien sûr que oui. Et le Père a combien plus forte raison, Jésus dit. Le Père céleste veut vous donner aussi de bonnes choses. Je voudrais conclure avec une courte histoire. J'ai entendu un jour, un jeune homme se rebellait contre sa famille. Après avoir insulté son père, il quitta la maison. Pendant quelques années, il mourit, il changea, il revint même à Dieu. Il reprit même le chemin de l'église, mais il n'avait toujours pas rétabli de relation avec sa famille. Son pasteur l'incita à se réconcilier avec son père. C'était vraiment difficile pour lui. Éprouvant toujours de la crainte, il décida quand même un jour d'écrire à son père pour lui dire qu'il voulait revenir jusqu'à lui pour lui parler. Dans sa lettre, il lui disait, « Si tu es prêt à me recevoir, je te demande de tâcher un chiffon blanc, une branche de grand arbre dans le cour de notre maison. » Et dans sa lettre poursuit, « Je vais passer par le train devant la maison et si je vois le chiffon, je descendrai alors du train à la gare de la ville pour venir jusqu'à toi. Mais si je ne vois rien, je continuerai sans m'arrêter. » Le jour arriva, le jeune homme monta dans le train, mais quand celui-ci approcha de sa maison, il eut trop peur pour même regarder. Il s'est souvenu de toutes ces paroles dures qu'il avait lancées à son père. Il explique alors son histoire au passager à côté de lui et lui demande de regarder à sa place parce que lui, il tremblait trop. Au bout d'un moment, il sentit la main de ce passager sur son épaule et doucement lui dit, « Mon jeune ami, il te faut regarder vers ta maison. » Quand il ouvrit ses yeux, il vit non un chiffon blanc, attaché à une branche de l'arbre, mais plutôt de centaines de chiffons attachés à toutes les branches de ce grand arbre. Donc il descendit bien sûr en ville et se réconcilia avec son père. Je ne connais pas votre situation ce matin. Peut-être, comme les disciples, vous voulez apprendre à mieux prier. Ce passage est pour vous. Ou peut-être vous êtes ici et constatez-vous que vous êtes loin de la maison de votre Père Céleste, mais que vous voulez y revenir. Ce message est aussi pour vous. Mais encore, ici, peut-être votre image de Dieu est comme celle de ce voisin, hargneux ou évêche. Alors ce message est pour vous. Il est difficile d'aimer Dieu avec une telle image. Parfois, les gens dans notre monde, leur propre père n'était pas un bon exemple. Et pour eux, parfois, il est difficile d'entendre que Dieu est un père céleste. Et il faut nous souvenir de cette parabole. Un père qui scrute toujours la route pour le retour de son enfant égaré. Jésus est venu pour nous montrer le vrai visage du Père. Il nous dit, « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. N'ayez aucun autre, n'ayez aucun Père. Le Père céleste vous attend. Oui, Seigneur, Nous nous sommes aussi parfois égarés, loin de la maison de notre Père. Et nous nous demandons si tu es vraiment prêt à nous recevoir, si tu es vraiment prêt à nous pardonner, si tu nous aimes vraiment. Seigneur, la prière n'est pas quelque chose que nous faisons. La prière commence dans cette relation intime d'un enfant et son père. Tu es prêt à nous pardonner, prêt à nous recevoir, prêt à avoir cette relation avec nous. Maintenant, Seigneur, c'est à nous de décider qu'est-ce que nous allons faire. Le Père nous attend. Est-ce que nous allons nous tourner vers lui pour être reçus, pour être aimés, pour établir cette relation? Aide-nous, Seigneur, parce que comme les disciples, nous aussi, nous avons besoin de mieux prier. Aide-nous, je te prie, au nom de Jésus, qui a tout fait pour que le Père nous reçoive gratuitement, avec amour, avec pardon. Je te prie au nom de Jésus.